Bienvenue sur le podcast Une Session Presque Parfaite, le podcast qui rentre dans les coulisses de la transmission d'entreprise. L'objectif ? Aller à la rencontre de dirigeants qui ont vendu ou qui ont tenté de vendre leur entreprise, mais également échanger avec des avocats d'affaires, des investisseurs, des conseillers en session d'entreprise pour obtenir toutes les clés de réussite d'une telle opération. Je suis Eliott Samoun et je suis conseiller en session et financement d'entreprise.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Une Session Presque Parfaite, j'ai le grand plaisir de recevoir Ilan Elbaz, entrepreneur franco-américain, papa de trois enfants également, et fondateur de Effective Capital, la seule donc boutique M&A cross-border, où vous avez donc un partenaire à la fois à Miami, à Paris, un peu partout. Donc, et tu vas nous l'expliquer juste après, Ilan. On va parler de M&A cross-border, donc des opérations de M&A entre la France et les États-Unis. Bonjour, Ilan.
Bonjour Ilan, merci de me recevoir. Un plaisir depuis le temps.
Bah oui, mais merci à toi. Et effectivement, je trouvais le sujet passionnant, d'autant qu'il n'y a pas vraiment de sujet pleinement consacré au M&A cross-border. Et je pense que tu étais le seul vraiment interlocuteur que j'ai pu voir et qui m'intéressait pour parler de ce sujet très intéressant.
Eh ben merci beaucoup. Effectivement, on parle que des gros deals en général et peu des petits deals et des small et mid-cap.
Exactement.
Et je pense que c'est intéressant d'en parler.
Tout à fait. Est-ce que tu veux nous dire maintenant juste ce que tu fais actuellement entre la France et les États-Unis pour présenter Effective Capital et les opérations que tu fais habituellement avant d'attaquer vraiment dans le vif du sujet?
Ah, avec plaisir. Écoute, nous, on est une boutique M&A des plus classiques. La seule différence et notre spécificité, c'est qu'on est présent en France pour l'Europe et aux US pour les États-Unis et bientôt au Mexique pour le LATAM. Et on travaille avec des fonds d'investissement et des entrepreneurs, que ça soit dans un sens ou dans l'autre.
Et vous avez une typologie d'opération particulière que tu aimes faire
On intervient entre 5 et 100 millions de valorisation. Et en général, notre sweet spot, c'est la transaction à 30-40 millions.
Bah, parfait. Bon. Alors, justement, on va parler donc du M&A cross-border. Alors, comment se porte le marché américain autour du M&A en ce moment, Ilan?
Écoute, l'année dernière, ça a été une année un peu bizarre, avec un volume des deals qui a baissé finalement pas d'autant qu'on n'ait pu penser. Elle a baissé de 3%, tu vois, donc entre 2022 et 2023. La valeur des deals, elle a baissé plus important. Les valeurs ont baissé d'une vingtaine de pourcents entre 22 et 23.
Ah, il est pas mal.
Ouais, assez important et surtout que la part des méga deals, elle, par contre, a augmenté. Donc, en général, il y a eu plus de gros deals. Les petits deals ont été mis un peu en attente, pas d'accord sur les valos. Et là, 2024, écoute, on a un gros deal flow, ça repart fort. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, on est arrivé à des valos qui ont été revus à la baisse. Mmh. Et je pense qui reviennent plus dans la normalité, on va pouvoir dire ça. Et ça, je peux le dire que c'est mondial, à mon avis. Mmh.
Qu'est-ce qui fait justement qu'il y a une baisse en termes de volume de transactions et l'impact sur les valorisations? Quels sont les éléments qui ont influencé cette situation?
Sur la baisse?
Ouais, exactement, sur la baisse des deals et sur la valorisation aussi qui a baissé. Est-ce que quels sont les principaux éléments?
Je pense que l'année 2021, on a eu énormément de cash sur les marchés, et ce qui a fait qu'il y a eu des valorisations très élevées, un peu du tout cash, du all-in cash, où tout le monde a profité de ces valorisations. Et aujourd'hui, on arrive dans un marché qui est un peu plus difficile. Les venture funds n'ont pas de problème de cash, ils sont tous bien financés, les fonds sont bien financés, mais aujourd'hui, la seule réaction qu'on a est la seule. C'est que les valeurs ne matchent plus avec les attentes des entrepreneurs, et de l'autre côté, les fonds ne surpayent plus.
Et tu le remarques pas seulement dans l'univers des startups, parce que c'est vrai qu'on l'a vu partout. Un peu la bulle, pardon. Ouais, un peu partout, ouais.
Ouais, partout. Partout, et je pense qu'aujourd'hui, voilà, et après, tu as des entrepreneurs qui sont en train de chercher la profitabilité. Mais c'est des cycles, hein. Je ne vais pas dire que je suis un peu un vieux de la vieille, mais avec 20 ans d'expérience et de bouchons, on a vécu ces cycles-là. Hein. En 2008, tu les as vécu, c'est des cycles qui reviennent. Et voilà, on se calme, on réfléchit, on dit ben attends, essaie de voir un peu si tu es profitable, essaie de nous faire une grosse margine positive, essaie de t'organiser. Et ça permet aussi de rétablir un peu. Mais rien, enfin aujourd'hui, je ne vois pas de problématique alarmante, mais après...
Ouais, ça permet de recentrer son business, effectivement, d'avoir des fondamentaux beaucoup plus solides, effectivement, qu'auparavant, où on voyait parfois, surtout des startups, lever des montants considérables sur un business model qui est parfois un peu bizarre, entre guillemets. Donc, je pense que la situation a fait... a permis de retrouver la situation à la normale. Et c'est vrai que l'argent gratuit, je pense que certains ont pensé que c'était une situation qui allait être comme ça tout le temps. Mais non, c'est seulement aussi un retour à la marché qui peut être douloureux aussi, parce que tu parles de valorisation, et c'est vrai que les dirigeants, parfois, sont restés sur les anciennes valorisations d'avant. Et maintenant, quand on leur dit que parfois leur boîte, elle vaut plus ce qu'elle valait avant, il y a toujours un travail à faire avec eux pour leur expliquer que c'est plus comme ça. Donc
ouais, après t'as eu quand même de gros chocs sur des valos de boîtes où il y a eu des seconds tours, des troisièmes tours avec des valos bien inférieurs aux tours qui ont eu précédents. Maintenant aujourd'hui, après la vraie question, elle est est-ce qu'on a besoin, enfin quel est le besoin d'argent, le modèle est-il disruptif, il n'est pas disruptif, et dans tous les cas ces périodes-là, elles ont permis d'avoir des nouveaux modèles qui sont arrivés, des nouvelles entreprises. Et sans ces périodes-là de cash available ou de cash disponible pour ces boîtes-là, comment veux-tu faire pour faire avancer aussi ces boîtes? Donc, je pense que c'est... On va pas dire que c'est sain, parce que là, je vais me faire bouffer par tout le monde, mais ça permet aussi d'avoir... ça permet aussi d'avoir, finalement, ces avancées, ces nouveaux business. Léa et tout ça, quand ils pensent aujourd'hui, on peut le dire, la trois quarts des boîtes qui sont là en train de lever aujourd'hui sur l'AI, tout le monde y vont à fond, elles n'existeront plus dans 3 ans.
Tout à fait, non, mais c'est vrai.
Mais on aura avancé sur ce business-là. Il y a des business comme le mien, il y a des business comme d'autres business qui vont profiter de l'AI. Et voilà, et je pense que ça, c'est vraiment le next step de chaque transition qu'on a pu avoir dans nos cycles économiques.
Tout à fait, un peu comme avec les NFT, effectivement, où... voilà, il y a toujours, dès qu'il y a des révolutions, des innovations, forcément, il y a toujours au début de la spéculation autour de ces événements qui vont venir faire gonfler les valorisations jusqu'à l'effondrement de cette bulle, mais qui permet en fait...
N'espérons pas qu'elle s'effondre. Mais
bien sûr, bien tout à fait. Je ne souhaite pas, évidemment.
C'est un autre problème. Mais non, mais aujourd'hui, regarde le Bitcoin, encore une fois, passé à 61, alors qu'il y a 2 ans, j'étais en train de dire, putain, quel...
Oui.
Quel main dans lequel j'ai investi, purée. tu vas devenir milliardaire.
Moi, je me suis dit justement pourquoi j'ai pas investi. Ouais, mais bon, à l'époque, c'est vrai qu'on se dit tous pourquoi on n'a pas fait. Ouais,
mais la vérité, c'est que tu l'achètes à 1000. À 1500, tu l'as déjà vendu. À part si t'as perdu ta clé, mais à 1500, tu l'as déjà vendu. Oui, personne n'aura attendu 70 000.
Ouais, exactement.
Donc, il faut arrêter. À chaque fois, pourquoi j'en ai pas acheté?
C'est le faux mot, hein. C'est vrai que toujours.
C'est le faux mot. Exactement. C'est-à-dire, j'aurais pu l'acheter à 1000. Mais tu l'aurais vendu à 1200. Ouais, hein,
non, mais je suis entièrement d'accord. Et ça me rassure au moins, ce que tu me dis, Ilan.
Bon, après, on a des bons événements cette année, je pense, avec des IPO qui vont venir, comme Alan, Conto ou Tolib, qui peuvent être des boosts. Aussi parce que c'est quand même des belles boîtes hein, dans tout
ça. Bien sûr, hein, tout à fait.
Ont profité d'événements arabes, mais je pense que tu vois, c'est ça, c'est des événements qui ont été décantés par des
crises, entre guillemets,
des crises. Un Doctolib, le Covid, ça l'a révolutionné.
Ah ouais, bien sûr, Doctolib.
Et maintenant, c'est indispensable et ça a fait avancer aussi toute la méthodologie du business de la médecine, du rendez-vous médical, etc. Donc c'est un des blâmes. Alan, la mutuelle, on n'en parlait pas avant, mais ça va pousser les mutuelles à se réorganiser aussi.
Donc,
et Conto, moi qui n'étais pas un utilisateur équipé en disant avec ma banque, etc., BNP, alors je ne parle pas quand tu es franco-américain, c'est compliqué pour les banques. Conto, exceptionnel.
À Conto, c'est vrai qu'ils ont fait un parcours quand même dans le paysage un peu des néo-banques.
D'une pratique.
Ouais. Ah ouais, tout à fait, ouais. Et c'est rare que autant recommande
une découverte.
Tout à fait. Et pour qu'il y ait autant de personnes qui recommandent aussi une néobanque, ça montre aussi un certain intérêt, une certaine résilience du business model.
Exactement.
Ouais, je t'en prie, excuse-moi.
Je suis d'accord avec toi.
On va parler maintenant de process M&A et de culture aussi. Qu'est-ce qui en fait diffère entre un process M&A en France et un process M&A aux États-Unis?
Alors, le process M&A sur les grandes boîtes, sur les big cap, il n'y a pas de large cap, il n'y a pas de différence, c'est les mêmes typologies. Sur ma typologie de deal, qui sont plus petits, Aujourd'hui, la différence, c'est quel est l'intermédiaire qui s'en occupe. Je ne vais pas révéler ma sauce secrète. Ouais. Parce qu'il n'y en a pas.
Et bien, ça commence par F et ça termine par Yves Capital.
Et non, l'idée, vraiment, la différence, c'est que quand je suis arrivé tout motivé aux États-Unis en 2015, en disant, ah, je vais révolutionner, je pense qu'aux États-Unis, je ne vais pas à la New York, je vais à Miami, comme ça, le M&A, il y a des deals qui se passent, c'est incroyable, des gros deals, c'est pas intermédiaire, il n'y a pas de banque. Moi, je vais arriver avec mon offre M&A, mon offre de boutique, venant d'une large cap où j'étais avant, j'ai fait toutes les grandes banques, je suis descendu après sur une banque, une boutique comme Cambon, et t'arrives avec les. J'ai dit, attends, moi je vais arriver, je vais leur expliquer, les boîtes de 20, 30 millions, il n'y aura pas de problème. La seule problématique, c'est que j'avais raté un petit point, c'est que c'est des business brokers. Et les business brokers, c'est des agents immobiliers.
Exactement, c'est ça.
Et, alors là, et en fait, en réalité, tu redescends dans. Ben, je donne à mon copain, il est agent immobilier. Il a vendu ma maison, il va vendre ma boîte. Et là, tu dis, mais merde, attends. T'es gentil, mais il comprend pas un PNL, il sait pas lire un cash flow, il sait pas lire un bilan, mais comment il va te vendre la boîte? Non, mais je le connais, tu comprends, il va faire ma... Et donc là, je me suis placé finalement en face de ces business brokers et en n'étant pas du tout adapté. Puisque moi, j'arrivais avec une offre qui était finalement une offre de service à la française aux États-Unis. Et il ne m'attendait pas du tout sur cette offre-là, donc il a fallu qu'on s'adapte. Et en réalité, au fur et à mesure, l'offre qui s'est définie d'elle-même, puisque je n'étais pas du tout sur un cross-border à l'origine. C'est qu'en rencontrant un ou deux entrepreneurs à Miami qui me dit « Attends, je veux vendre ma boîte, elle est en France, mais c'est génial de t'avoir là et d'avoir une équipe prod qui s'occupe de toi en France, parce que je déjeune avec toi quand je veux. On discute de la vente de ma boîte, et en même temps, j'ai un CEO qui s'en occupe en France. » Et donc là, le cross-border a fonctionné. Puis d'un coup, il a fonctionné en France, il a fonctionné en Angleterre, il a fonctionné en Suède, il a fonctionné en Italie. Et du coup, j'ai dit, attends, mais finalement, c'est le business model. Et l'autre business model de l'autre côté, ça a été de rencontrer des fonds d'investissement qui m'ont dit, attends, Ilan, t'es aux États-Unis, tu vois pas des deals intéressants qui pourraient être pour notre boîte, notre participation qu'on a. Parce que tu comprends, on veut monter une plateforme et le marché américain, c'est quand même intéressant. Mais bon, si on va ouvrir un bureau... Et ben, je leur ai dit oui, ouvre un bureau, vas-y, mais ça va te coûter $1 million et tu vas te rendre compte à la fin que finalement, tu n'as pas gagné un euro de chiffre d'affaires ou $1 de chiffre d'affaires et tu as dépensé $1 million pour ouvrir ton bureau parce que l'entrepreneur va dire ah bon, je vais à New York, je n'ai pas envie d'aller dans le Kansas, je n'ai pas envie d'aller à Miami, il n'y a rien avec des glandeurs. En gros, pour te la faire, Et donc, au final, tu leur dis écoutez, n'ouvrez pas, achetez des petites boîtes. Et quand tu vas acheter des boîtes, parce que l'avantage de ces business brokers qui m'ont tant fait mal, parce que j'ai recruté du monde, je me suis pris des belles gamelles quand j'ai commencé. Et finalement, ces business brokers à l'envers, quand tu te positionnes à l'achat, ils comprennent rien. Donc, du coup, tu leur achètes des boîtes, tu leur achètes des trucs, et en général, les chiffres sont pas bons. Donc, t'audites.
Parce que surtout, en fait, la spécificité là-bas aux États-Unis, c'est qu'en fait, l'acheteur comme le vendeur doit avoir un intermédiaire, un genre de broker en fait qui les représente.
Obligatoire, mais c'est mieux.
Et pour tous les types de deals, plutôt pour les micro deals, voilà, les micro small.
Sur des petits deals, aujourd'hui, tu dois aller ouvrir ouvre un bureau, une boîte, tu as besoin d'avoir un service commercial, tu as besoin d'avoir un peu de chiffre d'affaires, etc. Tu vas ouvrir un bureau, ça va te coûter entre 500 et $1 million. Tu vas embaucher des gens que tu connais pas, tu sais pas s'ils sont forts, etc. Je te dis, viens, on va sur $1 million, on va acheter une boîte qui fait 4-5 millions de chiffre d'affaires, qui fait 2-300 000 débits sur le papier, mais au final, à la fin, quand tu retraites tout ce que dépense l'entrepreneur sur la boîte, etc., elle vaut peut-être zéro. Mais qui a un intérêt, tu arrives tout de suite sur le marché, tu as déjà un commercial, tu as déjà du chiffre d'affaires, qu'il soit au Kansas, qu'il soit à Boston, qu'il soit finalement, ça te permet d'avoir un bureau. Et d'avoir un bureau qui te ramène du chiffre d'affaires et d'avoir une vraie typologie.
Parce que du coup, maintenant, t'es devenu un peu la seule boutique vraiment cross-border qui arrive à avoir un tel positionnement et un modèle, un business model comme le tien.
Notre business model aujourd'hui, il est plus que du M&A, on fait un peu d'accompagnement en réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je vais pas dire viens on rachète cette boîte, il y a peut-être des si tu regardes un des derniers deals qu'on a fait, on a passé 10 ans ensemble quasiment de leur première levée, leur OBO, et à la fin pour arriver à une session, mais entre temps on leur a ouvert le bureau, ils sont venus l'ouvrir à Miami parce qu'ils réfléchissaient à ouvrir aux États-Unis, mais peut-être New York, je dis mais non, vous ouvrez à Miami, vous allez avoir le LATAM, votre business model il peut fonctionner au LATAM.
C'est beau, hein, et donc, de suivre un...
Donc, c'est ça, aujourd'hui, moi, c'est ça, les histoires d'entrepreneurs que j'aime bien. Et c'est ça que j'aime accompagner. Aujourd'hui, j'aime partager, échanger, être challengé. Et je pense que c'est ça que la valeur ajoutée et ce qu'on aime bien aussi chez nous.
Et qu'est-ce que tu trouves difficile? Parce que t'as été aussi banquier d'affaires pendant une dizaine d'années à Paris aussi, notamment chez Cambon et d'autres boutiques M&A. Qui t'a marqué, entre guillemets, entre la manière de faire un deal aux États-Unis et en France? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui t'a marqué ou qui t'a davantage plu aux États-Unis qu'en France?
C'est une bonne question. La réalité, en fait, aujourd'hui, c'est que le business en lui-même de la transaction est le même. T'as besoin de l'auditer. C'est juste que ce qui manque, c'est la professionnalisation de ton client, qu'il soit quelqu'un qui va venir te voir pour vendre ou celui que t'achètes. En face, tu vas avoir des chiffres qui vont pas être organisés, qui vont pas être audités. Bizarrement, dans les boîtes françaises qui sont aux États-Unis, qui sont pas, eux ont l'habitude d'avoir concept de la discipline, etc. J'avais travaillé pour une boîte où il y a un Français en disant, elle est auditée, elle est carrée. Enfin, c'est juste qu'on a été formaté en fait. Et donc, mais l'Américain, il n'a pas été formaté à avoir des comptes avec un CAC, qui avait été audité, avoir audité, déposer les comptes. C'est pas cette méthodologie-là et c'est pas ce business model-là. Après, encore une fois, moi, je travaille sur des deals qui sont plutôt petits, qui sont pas grands et larges en taille. Donc, du coup, après, j'imagine bien qu'une boîte qui se vend 200, 300 millions ou même 100, elle est beaucoup mieux organisée, évidemment.
Et du coup, toi, ton approche, elle est beaucoup plus prudente, même ne serait-ce qu'avant de prendre un dossier, parce que justement, si t'as pas, il y a cette rigueur en moins, entre guillemets, chez les Américains au niveau de la conformité des chiffres et la fiabilité des chiffres, est-ce que ça t'amène à être beaucoup plus vigilant à la fois avant de prendre un mandat, mais aussi quand tu vas négocier avec l'acheteur ou le vendeur?
Là, tu viens de parler d'un mandat de vente, très clairement, évidemment. Aujourd'hui, je limite presque une vendeur due diligence pour essayer de comprendre, en rigolant et en ne faisant pas d'ombre à mes amis auditeurs et d'ETS, mais oui, enfin aujourd'hui, c'est quand on va venir me dire, écoute, je fais 5 millions d'EBIT, ok, explique-moi comment tu fais ton EBITDA ou ton EBIT, je voudrais comprendre, avant de te dire, ça vaut 50 millions, t'as boîte. Mais t'as un peu ce côté-là. À l'achat, on fait une offre en fonction d'un EBITDA, on fait l'audit, il dit pas bon.
Donc il y a un vrai business de VDD, on va dire, là-bas, aux États-Unis.
Il y a un vrai business de VDD et surtout il est beaucoup plus cher.
J'imagine
parce que le prix par rapport au prix des VDD de Paris, il est beaucoup plus cher.
Le travail est beaucoup plus aussi peut-être approfondi parce que peut-être en France on a.
On est meilleur.
Ah ouais, très bien. Ah, c'est bien que tu le soulignes.
Non, on a des côtés pas bons. On a des côtés aujourd'hui même dans le même. Enfin, j'allais dire les employés, ça n'a rien à voir. Quand tu sors d'école de France et que tu as fait des stages et que tu es organisé et que tu sors d'une super fac américaine, que ça soit des Ivy Leagues ou. Je te jure, c'est afférent. Le différentiel, il n'est pas du tout là. Alors après, on va dire peut-être que je n'ai pas eu de bol, tu vois, j'ai pas eu les bons, j'ai pas eu les trucs, mais aujourd'hui, quand tu regardes ce que produisent nos écoles, où la génération est bien meilleure.
Et toi, est-ce que tu préfères, maintenant tu préfères mener un deal aux États-Unis? Est-ce que t'es beaucoup plus en fait excité plutôt par les négociations américaines que par les négociations purement franco-françaises? Est-ce que t'as une mentalité de base qui est peut-être aussi américaine? Voilà, t'as l'esprit américain. Voilà, comment tu te situes par rapport à ça?
Bon, il faut savoir que moi, les États-Unis. Tu me demandais à 13 ans ce que je voulais faire plus tard. Je voulais faire du M&A et je voulais être américain.
Ah déjà.
Donc aujourd'hui,
depuis
le départ, je parlais de ça avec une de mes tantes. Il y a pas longtemps, elle me dit tu m'étonnes encore moi.
C'est fou.
Mon neveu, parce que tu as dit quand t'étais petit, tu voulais vendre et acheter des boîtes et tu voulais être américain. Et c'est vrai que j'ai été au bout de ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, mener un deal aux États-Unis, mener un deal en France. Je suis très très attaché à mon biculturalisme en étant évidemment plus français, né en France, élevé en France, mais maintenant ayant habité quasiment une grosse partie de ma vie aux États-Unis, j'élève des enfants français, on a déménagé maintenant il y a près de 10 ans, donc t'imagines bien qu'ils sont presque américains et ils préfèrent le football américain, le basket que de regarder le foot. avec moi et de regarder l'OM, mais bon.
Ah ouais. Ah, je pense que c'est deux ambiances différentes, c'est vrai. Je pense que.
Ouais, j'y arrive pas. Les matchs ils préfèrent être pour le PSG. Je n'ai pas réussi. Ça, c'est vraiment un échec pour moi. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Il y a Messi,
ils aiment la star. C'est les Américains, il faut des stars. Il n'y a pas de stars, ouais, c'est pas intéressant.
Exactement.
C'est vrai qu'ils
voient très gros, les Américains aussi. Donc, même, je pense que, quand les négociations avec vraiment que des Américains, ça va être aussi différent. C'est peut-être une approche différente. Il y a peut-être pas forcément la même
c'est
façon.
C'est très direct, en fait. Il y a une différence dans le direct. Et il y a quelque chose qui me manque beaucoup dans le langage, en fait, en anglais, c'est que ton langage est direct. C'est pas que tu parles bien ou tu parles mal, c'est qu'il n'y a pas la même profondeur de mots, la même profondeur de langue en français qu'on a en français en anglais.
D'accord.
Donc du coup, en français, tu peux jouer sur les mots, jouer sur les expressions, jouer sur le visage. Quand tu... Avec l'américain, il va dire, il va te regarder, il va te sourire, but no.
Ah ouais, d'accord, ouais.
Voilà. Donc du coup, tu as cette côté-là qui va te rendre toi à un français si tu dis comme... Tu n'avais jamais dire à quelqu'un en français dans une égo... Oui, oui, oui. Non. Ouais. Parce que là, tu lui fous un peu dans la gueule. C'est envie de lui dire. Mais
ouais, oui,
en anglais, il va te mettre comme ça dans une négociation et ça va tout de suite créer finalement quelque chose. Alors qu'en français, tu vas pouvoir jouer sur une, sur un relationnel, sur une gestuelle, mais parce que le français est une langue latine et que l'anglais n'est pas une langue latine. Donc, tu as ce côté qui est différent, culturel. Et aujourd'hui, j'ai eu des deals, des fois, où il y avait un problème de culture. Et aujourd'hui, c'est là notre force. On est capable de faire le plus parce que je connais les deux, en fait. Et je sais qu'aujourd'hui, quand il va te dire non, non, c'est juste qu'il n'a pas été éduqué, il n'a pas été... C'est dans sa culture. Ah, mais tu sais, il a... Non, on va pouvoir faire comme ça, mais peut-être comme ça. Et si on trouvait une solution? Non. OK, bon. Mais moi, je ne veux pas. Donc, OK, mais il y a différentes approches.
Du coup, quand tu représentes un client qui vend sa boîte, c'est vrai que quand tu vas défendre, entre guillemets, tu vas présenter des arguments pour justifier peut-être une valorisation, la discussion ne sera pas forcément la même. C'est vrai qu'en France, bon, y a plusieurs styles de banquiers d'affaires. Hein. Y a des gens qui vont être avec des négociations très dures, très, très carrées. D'autres, bah, comme tu l'as dit, très portés plutôt sur le relationnel, avec les mots, un mode pacifique, on va dire diplomate. Je pense que du coup aux États-Unis c'est pas qu'il y a pas de diplomatie.
J'ai la chance d'être passé par une boutique et d'avoir eu un mentor comme David Salavi qui m'a bien permis d'avoir une bonne de bons skills de négociation plutôt durs et de
ah bah ouais parce que t'es passé par par une très belle référence dans le
exactement
dans le
MLA, donc, du coup aujourd'hui il faut s'adapter en réalité. Tu t'adaptes finalement à ton degré de négociation et ta façon d'être. Elle s'adapte en fonction des gens que tu as en face de toi et en fonction du deal et en fonction aussi, enfin, on va pas se cacher, tu fais le même métier. Si tu as quatre acheteurs derrière toi qui sont d'accord pour la même boîte et que tu as une auction process et que tu es là, et si tu en as qu'un, ton style de négociation va être peut-être plus light.
Ah, tout à fait, bien sûr. Mais donc,
alors que si tu en as quatre qui font le même achat, tu dis écoute, t'es pas content, allez, bye.
Ouais.
Mais si t'as qu'un acheteur et que tu adaptes aussi ta façon d'être. Donc,
de toute façon, tout va dépendre également du rapport de force, c'est ça, comme tu l'as dit. Hein, donc, le rapport de force.
J'ai jamais été quelqu'un dans le rapport de force. Ouais. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, ce qui m'importe beaucoup, c'est l'humain. Donc, en réalité, que ça soit à l'achat, à la vente ou à avoir en face de moi, je trouve qu'on a un respect à avoir entre quelqu'un. On travaille dans un microcosme qui est assez petit. On va sûrement travailler tous ensemble à chaque fois, que ça soit à l'achat ou à la vente. Et si en face de toi, t'es hyper dur avec quelqu'un. Alors, ok, super, tu vas lui montrer tes skills de super vendeur, mais est-ce que lui, il a envie de travailler avec toi? Parce que s'il n'aime pas ta tête, et qu'il n'aime pas quand même, il ne va pas travailler avec toi aussi. Ouais. Donc, à l'envers,
bien sûr.
L'humain, ça reste important.
Que ce soit
un entrepreneur, que ça soit un fonds, que ça soit un analyste dans un fonds, il y a un respect à avoir de la personne. Elle travaille, tu respectes.
Tout à fait.
Et moi, aujourd'hui, c'est ce que j'essaye d'implémenter dans ma façon de travailler avec mes collègues et dans ma façon de travailler avec mes partenaires et dans ma façon de travailler avec mes clients. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important pour moi.
Bah, tout à fait. Et on le ressent parce que même dès qu'on... Je pense que tu le vois aussi, dès qu'on veut signer un mandat de vente et que le dirigeant, enfin le prospect nous met en compétition avec d'autres banques d'affaires, on peut avoir la plus belle offre, on peut présenter une offre de qualité et plaire aux dirigeants. S'il n'y a pas ce feeling-là ou ce côté qui nous donne envie de travailler l'un pour l'autre ensemble, c'est vrai qu'il n'y a pas de mission.
C'est la clé.
Mais bien sûr.
Il y avait un de mes anciens clients qui me disait, il y avait une entreprise de BTP. Il me dit, quand on va était une grande, qui était un gros succès. Il me disait, quand on va pitcher, on part du fait que la peinture, on sait la faire, sinon on n'est pas là, en fait. Donc quand tu vas pitcher ou quand on t'appelle pour venir dire, écoute, est-ce que tu peux regarder le dossier? Bon, on part du fait que tu sais déjà faire ton dossier. Tu sais déjà travailler sur ton business. Tu sais vendre une boîte. Tu sais lever des fonds. La vraie question, enfin, est-ce que tu as envie de te taper ma gueule pendant 9 mois,
ouais,
pendant 9 mois?
Et bien, au moins, 12 mois.
Ah ouais. Si t'as pas envie, et que moi j'ai pas envie, bah, c'est pas la peine. Et moi je le dis ouvertement. Ouais. Il y a des fois, il y a des gens, je leur dis, si tu n'aimes pas ma tête ou t'aimes pas ma façon de travailler, ne viens pas travailler avec moi.
Mais maintenant,
l'idée générale, c'est de se dire ça. C'est que, écoute, j'ai 42 ans maintenant. Si j'aime pas quelqu'un, je vais pas travailler avec lui. C'est important.
Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que sur des opérations comme celles sur lesquelles on travaille, qui sont des opérations d'une vie pour un dirigeant d'entreprise, le relationnel, le feeling est d'autant plus important qu'on sera amené à échanger presque tous les jours pendant tout le process. Hein, donc, c'est important. Ouais, c'est...
L'humain, on a des métiers.
C'est
capital,
c'est
quoi.
Ouais, c'est tout à fait.
Parce que je pense que, enfin, moi, faire des tableaux Excel, c'est bien. Si on sait pas, si tu sais pas faire ton business plan, ton info mémo, ça fait longtemps qu'on serait plus là.
Ouais, exactement. D'ailleurs, est-ce que tu te souviens de ton premier deal aux États-Unis quand t'es arrivé et t'as monté effectif capital? Est-ce que tu te souviens du premier deal positif ou négatif? Hein, mais voilà, c'était comment ça s'est passé?
Alors, mon premier deal aux US. Non, ma première expérience de deal. Elle est plus importante puisqu'il n'a pas été au bout.
Ok.
Mais j'ai eu tout le spec puisqu'on n'a pas été au bout pour une question à la fin d'un veto d'un des partenaires dans un fonds d'investissement.
Ah oui.
Donc le truc.
Rageant,
qu'on a la fin et surtout, moi, j'ai eu du mal, c'est comment l'annoncer. Ah ouais. À mon client, où on est à la fin, c'est-à-dire que c'est fini, on a fini les audits, on a fini confirmation d'offres. Non, mais il y a un petit, on a notre rendez-vous monde, c'est un très gros fond, un veto d'un gars en Europe.
Ah ouais.
Je me rappelle, j'étais à un dîner de closing d'un autre dossier, je rentre, je suis dans la voiture et j'ai l'appel.
Ah ouais. Ah, de quoi casser le moral.
Je suis resté, il était minuit, je me rappellerai toujours. Je suis resté de minuit à 2h du matin à me dire comment. Je vais les appeler pour leur annoncer.
Ouais, parce qu'il n'y a pas de.
Parce que eux, on faisait une belle vente, 70 millions de dollars. Et c'était le deal pour lequel on déménageait aussi.
Ah ouais.
Parce que je déménageais, c'était mon deal que j'avais sourcé de Paris.
Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc plus un bonus.
Moi j'étais là, je me dis putain, si ma femme elle me dit on déménage pas alors que moi je voulais partir aux US.
Je veux rien lui dire à ma femme, je veux rien lui dire.
Mais non, écoute. Donc ça, c'était une des expériences les plus. Difficile, mais mon premier deal, ça a été le deal qui m'a permis de faire le cross-border. C'était un entrepreneur que j'avais rencontré à Miami et qui, du coup, m'avait donné sa boîte à vendre en France. Et c'est comme ça que
très bien.
J'ai enchaîné sur cette niche, en fait, de l'entrepreneur qui est à Miami ou à New York et qui veut vendre sa boîte en France.
Très satisfait de ce premier deal, justement, que tu as pu...
Ouais.
Ça s'est passé comme prévu, comme
d'habitude, un deal c'est plus long.
Il y a beaucoup de, il y a pas mal d'obstacles effectivement.
Mais c'était une belle expérience parce que c'était une sortie aussi, à 100%. Donc.
Ah ouais, très bien. Ouais. Alors, merci beaucoup Ilan pour ce partage d'expérience. On entend aussi beaucoup parler de la plateformisation de fonds français aux États-Unis. Est-ce que tu pourrais nous donner un aperçu de ce concept et de son impact aussi sur le marché M&A en France?
Alors, le platform investment qui a été transformé en plateformisation. Écoute, le platform investment aujourd'hui, c'est des fonds d'investissement qui vont viser, un exemple aux États-Unis, ça veut dire on va acheter toutes les boîtes, on va acheter une belle boîte qui fait de la clim et de la maintenance. Donc, quand tu réfléchis à maintenance, tu peux imaginer la même thématique que du SaaS, du recurring revenu avec des contrats. Et de là, on va, c'est des business qui sont hyper étalés, hyper petits, où il y a une consolidation qui peut être faite très importante. Et là, ils vont y aller et ils vont acheter, consolider. Et la valeur d'un petit business est beaucoup plus faible que la valeur du business consolidé.
C'est le LB, c'est un LB, en fait, c'est un leverage build-up, c'est ça?
C'est du build-up, sauf qu'il n'y avait pas de dette en général, c'est avec du cash.
D'accord, ouais, très bien.
Ça. Okay. Et surtout, c'est le même système que quand tu penses, quand tu imagines et tu fais le comparable avec des logiciels et du SaaS.
Tout à fait.
Quand tu as un petit ARR et que tu en as un plus gros, ta valo, elle monte, elle est différente. Et c'est exact. Et aujourd'hui, on va vers. J'ai beaucoup, beaucoup de fonds d'investissement qui t'appellent, disent voilà, j'achète ça. Est-ce que tu peux m'aider à regarder des dossiers aux US, parce que moi, ça me permet de build up. Et aujourd'hui, c'est vraiment une tendance assez intéressante et aussi qui permet aussi d'avoir, de bénéficier de ces exits à des petits entrepreneurs à droite, à gauche, qui m'a amené, moi, à aller faire des deals au Kansas. Qui m'a tu peux aller, je peux dire que j'ai fait des tours des États-Unis à Minneapolis, où j'ai été à Cleveland, j'ai été à Détroit. Et donc, tu regardes et finalement, tu as le même business model qui se répète dans tous les États.
C'est intéressant. Donc, ouais, c'est vraiment une stratégie de build-up. Bon, du coup, c'est que du cash payé donc sur des petites boîtes, on va dire, avec un multiple faible, multiple de valorisation plus faible. Ensuite, il intègre dans la
plateforme. En fonction de la taille, voire même pas de multiple, mais plus une acquisition pour un fees spécifique.
Et qu'est-ce qui justifie justement cet engouement, entre guillemets, pour ces opérations de build-up, de consolidation, pas outrance, hein, mais beaucoup de consolidation?
Je ne sais pas si c'est un engouement. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas non plus. Il y a eu beaucoup de cash dans ces fonds. C'est une stratégie qui fonctionne bien, le growth equity, le PI. Et qu'aujourd'hui, on a trouvé cette niche d'aller. Je pense que ce n'est pas une niche. Le build-up, ça existe depuis tout le temps. Mais d'aller le faire et de dire bon, voilà, aujourd'hui, on va lancer une plateforme. On a levé 100 millions sur cette typologie-là et on va racheter tous les business. Tu regardes aujourd'hui hein, avec Klingbeil, hein, ce qu'il a
fait. Ah ouais, avec European Digital Group.
C'est le premier plateforme successful en France, investment.
C'est génial.
C'est parti. De day one, il a dit on va faire ça avec Montefiore et on y va.
C'est fou, ok. Ça, il vise le milliard de...
Mais quand il pense, c'est. Quand on dit la plateformisation, tu peux la plus que tu veux, mais c'est... il a fait. Ouais.
Et c'est vrai que c'est...
Ah, c'est un fonds est venu, story, il a dit écoute, on va faire ça, on va acheter. Alors, dans son domaine, c'est accumuler différentes compétences et faire du cross-selling entre les compétences. Quand il pense à la fin, la boîte elle-même, par rapport à les petites boîtes ou la somme des petites boîtes, ce n'est pas la même valeur.
Et il y a aussi un autre, entre guillemets, engouement, même si voilà, la patronisation, c'est moins un engouement, c'est plutôt une situation et un contexte qui amène à ce type de consolidation. Mais on entend également, on constate que les fonds américains sont beaucoup davantage intéressés par s'implanter en France et racheter des boîtes en France. Est-ce que tu le constates également et comment ça se fait aussi que...
Alors il y a deux choses. Intéresser à s'implanter en France, c'est pas l'intérêt de l'implantation en France en elle-même. C'est qu'aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir des boîtes françaises qui sont de plus en plus intéressantes. Donc finalement, c'est pas la France qui est devenue intéressante comme pays pour certains. Même si, après tout ce qu'on a pu décrier sur un développeur en France, il est bien moins cher qu'un développeur aux US.
Ouais.
Donc au final, la France, en coûts salariaux, on a beau dire ce que un, c'est pas cher. Et deuxièmement, c'est beaucoup plus stable parce que l'employé, il reste. Il est en CDI. Alors tout le monde dit, les CDI, finalement, c'est un... Mais moi, je rêverais d'avoir des gens en CDI aux US. Ouais. Et qu'un matin, il se lève pas et il me dit, finalement, j'ai changé d'avis, je veux changer de boîte.
Ah oui, parce que quand tu rachètes une boîte, je sais pas si c'est une garantie.
Mais même dans nos métiers à nous, un matin, je suis pas venu, j'ai eu une expérience dès que je suis arrivé. Un analyste comme ça, un jour, il vient pas. Un jour, un texto, ça va. Pas de réponse. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Il est pas mort. Qu'est-ce qu'il a, quoi? J'ai reçu un email d'un avocat. Arrêtez de l'harceler. Je me dis, il travaillait chez moi. Il est salarié. Il vient plus.
C'est énorme.
Ouais. Et donc, en fait, non, mais il aimait plus. Parce que tu comprends, le PowerPoint, je lui avais dit que c'était pas bien ce qu'il avait fait. Il avait pas apprécié.
C'est fou.
Ok. Donc,
ne faites pas ça, ceux qui nous écoutent en France.
Donc c'est culturellement. Non, mais voilà, exactement. Mais c'est pour ça, mais c'est culturellement, en réalité, il y a une vraie différence. Il n'y a pas de contrat, en fait, de travail. Donc, ça s'appelle at will.
Ah ouais, donc.
Donc, tu viens pas. Mais inversement, la flexibilité, je la trouvais hyper, hyper bien. Mais en réalité, je préfère avoir des gens sous contrat et qu'il y ait un certain attachement à l'entreprise. Enfin, si, tu as des attachements. J'ai eu la chance de vivre avec. des gens qui m'ont suivi, qui ont travaillé pour moi pour 10 ans, 10, 12 ans. Donc, tu vois, c'est une chance, tu développes, tu construis quelque chose. Aux États-Unis, les gens ne restent pas si longtemps que ça dans les boîtes, en fait.
Ouais, c'est vrai.
Il y a beaucoup de turnover, ils vont chercher du salaire, ils ne cherchent pas la relation, ils ne cherchent pas la construction du travail. On cherche tous les 2-3 ans, ils changent.
C'est vrai que c'est une autre approche. C'est vrai que. Il y a peut-être, je sais pas si c'est une question de loyauté, de fidélité. Je pense que en France, c'est vrai qu'il y a pas mal aussi de, il y a l'aspect loyauté aussi parfois pour soit pour son premier employeur ou pour celui le patron qui met à l'aise, qui met bien ses collaborateurs. Donc
il y a mais comme tout après, exactement, t'as une certaine loyauté, mais comme tout après dans une relation, tu vas avoir des relations, ben elles s'arrêtent.
Ouais, bien sûr.
Mais au moins t'as construit quelque chose. Mmh. À un moment, ça peut s'arrêter. Non, mais c'est la vérité.
Ah ouais.
Mais là-bas, tu ne construis pas, en fait. Chacun son business. OK, je veux une augmentation, j'en veux pas. Enfin, il n'y a pas de relation de construction. Je sais pas. Alors que, voilà. Alors que je ne dis pas que ton employé ici, c'est ton copain. Parce que tu arrives à garder quand même. Mais tu travailles, tu es content, tu construis quelque chose.
Ouais, c'est ce qu'on me disait, justement, un peu des États-Unis, même au niveau relation, même amicale, au niveau de relation de tous les jours. C'est peut-être, alors je dirais pas que c'est faux, hein, mais peut-être en France, les relations elles sont peut-être beaucoup plus palpables, beaucoup plus profondes. Peut-être que certaines relations, peut-être aux États-Unis, où ça va être beaucoup plus voilà, bon cash, mais très superficiel.
Ça fait dans la mentalité, c'est même les Américains entre eux, hein, c'est pas une question, c'est une question culturelle. Après, il y a aussi une barrière de la langue. Hein,
ouais,
donc,
bien sûr.
Tu rentres plus profond. Le français, automatiquement, aujourd'hui, 90% de mes amis aux États-Unis, c'est des Français, hein, donc, ou des francophones.
Ouais, bien.
Après, les amis américains, c'est différent, mais assez intéressant aussi comme culture. Il y a une culture de la gagne, une culture du travail, il y a une culture de on se plaint pas, on avance. Ça change aussi.
Est-ce que tu as des systèmes de protection comme ce qu'on a avec la GAP en France, aux États-Unis, parce que tu as parlé justement peut-être de la GAP. Totalement différence, exactement. Est-ce qu'il y a une.
Il y a exactement la même chose.
D'accord, c'est pareil, ouais, d'accord, c'est pareil. Ok, très bien.
Okay. Tu as les mêmes protections, tu as les mêmes.
D'accord, ok. Parce que c'est vrai que quand tu as parlé justement des collaborateurs qui peuvent partir,
l'audit social. Oui, mais c'est un point de vue social en fait, mais l'audit social sur une GAP aux États-Unis. Ça va être différent. Après, encore une fois, ça dépend des tailles des entreprises.
Bien sûr.
Ton audit social, ton liability n'est pas la même.
Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler peut-être des... Parce que, comme tu l'as dit, hein, il y a beaucoup d'entreprises en France qui font des opérations avec des Américains. Quels sont les défis potentiels que tu vois pour ces entreprises qui chercheraient à attirer des fonds US, à se montrer visibles auprès de ces fonds US pour, voilà, dès qu'elles veulent lever des fonds, dès qu'elles veulent faire une opération de cession.
L'avantage quand même de rentrer avec une boîte, avec un fonds américain ou d'avoir un investisseur américain qui vient à ton capital, c'est que quand tu développes ici en France, tu vas être développé en... Ben, le marché français est petit, de facto, et quand tu veux le développer en Europe, tu vas le faire dans 20 langues différentes. Donc, ton accès est 20 cultures différentes. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, malgré... les états différents, la culture est la même. Et tu as accès au marché, donc il est instantané, tu as un plus gros marché. Donc aujourd'hui, l'avantage d'aller aux États-Unis, c'est que c'est un plus gros marché. C'est tout, c'est aussi bête, c'est que d'un coup, tu as un plus gros marché. J'ai déjeuné avec un fonds qui me disait, un manager fonds, il me disait, c'est comme si en France, il fait un POC, une proof of concept, et qu'après, aux États-Unis, il déploie. Parce que finalement, la France, c'est finalement... son marché est de facto une proof of concept.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'en plus, bon, en France, on a la chance quand même d'avoir un très bon vivier de chercheurs, de scientifiques, d'informaticiens, donc, effectivement, qui arrivent à développer des pépites en France, mais très souvent, on le voit, malheureusement, ces pépites se font racheter forcément par des étrangers, parce que France, le marché est petit, et c'est vrai qu'un fonds américain, un acteur américain, peut exécuter, peut déployer beaucoup plus rapidement et à plus grande échelle. Donc, c'est vrai que c'est compréhensible.
Après, nos fonds français, ils ont quand même aujourd'hui, ils savent déployer, ils savent accompagner aussi. Il y en a beaucoup qui accompagnent aussi aux États-Unis, beaucoup plus qu'on le pense. Ils sont capables d'accompagner à l'étranger, d'ailleurs, pas qu'aux États-Unis. Donc, je pense pas. Et puis, la BPI a fait un travail remarquable.
C'est magique,
honnêtement,
bien sûr.
Là, tu vois, on a les French Capital Days, maintenant, il y a mis à la French Tech. C'est de la... Alors, après, c'est c'est de la reconnaissance, c'est de la pub pour la France, mais aujourd'hui, la BPI, ce qu'ils ont fait sur le
marché européen, bien sûr, ils sont partout.
Ils sont partout, ils ont permis de déployer, de pousser. On n'a rien à envier aux autres nations.
Enfin, ah non, vraiment,
les boîtes allemandes, elles se font racheter. Mmh. Les boîtes anglaises, elles se font racheter.
En France, on a de l'argent. On a beaucoup.
Les fonds ont de l'argent. Ils ont levé. Ils arrivent à soutenir. Voilà. Après la suite, on a plus de licornes qu'avant. Quand même. Si tu regardes toutes les boîtes qui
grossissent.
On n'a pas à rougir. On est bien. Je pense qu'il y a un vrai marché. Et t'as de vraies grosses boîtes aujourd'hui qui sont capables d'aller faire des acquisitions aux États-Unis et qui le font. Tant mieux pour moi.
Et qu'est-ce qui nous envie les Américains? Par exemple, justement, est-ce que il y a des secteurs vraiment sur lesquels ils sont vraiment intéressés et c'est la raison pour laquelle ils cherchent très souvent à racheter des boîtes françaises? Est-ce que quels sont les sujets qui les excitent entre guillemets en ce moment?
Je sais pas si c'est un problème de sujet ou un problème, je pense que c'est très opportuniste.
Ouais.
Il y a pas de à part le vin et le fromage qui sont chez nous, mais non, mais c'est
de bon poids.
Un peu, comment on appelle ça? Un peu schématique. Mais non, mais aujourd'hui, non. Je pense qu'il n'y a pas. Je pense qu'aujourd'hui, le marché est tellement international, entre guillemets, qu'aujourd'hui, s'il y a une boîte qui a développé une techno qui est intéressante, aujourd'hui, c'est cross-border, ça peut se faire tout de suite, quoi. Il n'y a pas de. Je ne pense pas qu'il y ait un secteur en particulier. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose d'intéressant. Et puis même, des boîtes françaises, elles vont aussi lever de l'argent aux US. Donc, il n'y a plus cette barrière qu'il y avait avant. Je pense pas qu'il y ait vraiment de particularité.
Et est-ce que ils vont être attentifs aux mêmes métriques que nous, par exemple, quand on va regarder, quand on va faire la valorisation, on va regarder l'EBITDA, on va regarder peut-être l'ARR, si c'est du SaaS ou un business model récurrent. Est-ce qu'ils vont avoir les mêmes points d'attention ou de focus, ouais.
Ouais, c'est les mêmes.
Et est-ce que
c'est les mêmes. Alors, à l'achat, d'un point de vue d'un fonds qui va investir. À la vente, si c'est un business broker, il va pas en.
Ouais, bien sûr. Différent. Tout à fait. Ouais. Et toi, tu. Quel conseil tu pourrais donner justement, peut-être à un dirigeant français, un entrepreneur français qui chercherait à faire une opération avec un fonds? Est-ce qu'il y a des éléments vraiment qui doivent être remis à jour, qui doivent être davantage mis en avant?
Le différentiel entre le fonds américain et le fonds français, c'est que le fonds français, il va se mettre avec l'entrepreneur. Alors, l'américain aussi, hein, il n'y a pas de problématique. C'est juste dans la partie pacte d'actionnaires où tu vas avoir un système où on gagne ensemble, on perd, tu perds. Et moi, je
perds. Ah oui, on perd pas ensemble. Ouais.
On perd pas ensemble. Donc, c'est ça la différence de l'américain. Les preferred en France, elles sont rares. Dans les packs d'actionnaires, dans les deals qu'on fait.
D'accord, ouais.
Que ça soit en venture, je pense que tu en fais aussi.
Ouais.
Il y a rarement des preferred x2, x3.
Alors qu'en France, c'est vrai qu'on est.
Oui, parce que les valos vont être plus raisonnables.
Tout à fait,
alors que la valo aux US va être beaucoup plus élevée, mais les preferred vont. Et donc, du coup, en réalité, c'est on gagne tous ensemble, on perd. Il te reste rien à la fin. Donc finalement, ces preferred-là, elles tuent. Enfin, qui a fait un deal comme ça, il est descendu quasiment, et même il a vendu très bien sa boîte. Pour à la fin.
Ah oui, c'est ça, rien à voir
par rapport
oui,
à la valo.
Bien sûr.
Il a quand même gagné sa vie, mais. Et c'est ça la différence. C'est juste dans le concept de la preferred. C'est on fait confiance, on y va, go, maintenant on gagne ensemble. C'est vraiment, vraiment, ça m'a choqué. Ouais.
Et justement, pardon, j'imagine que le process, bon, comme toi tu l'as dit, est le même. Donc, c'est un système de compétition, donc avec des acheteurs qui sont en compétition, qui vont faire leur offre. Est-ce que très rapidement, parce qu'à l'inverse, en France, on organise un système compétitif, on attend plusieurs rendez-vous avant d'avoir une offre.
On essaie.
Les Américains, ils vont directement, ils peuvent regarder un dossier et rapidement se positionner, préempter.
Ouais, c'est pas préempter, mais ça, ouais, s'intéresser très rapidement. Ça peut être plus rapide, en fait.
Ouais,
un process français est plus long.
D'accord, ok.
Un process US peut être plus rapide, il peut être plus long aussi. Hein. Ça dépend de l'intérêt que ton dossier
a. Bien sûr.
T'as toujours la même métrique.
Et toi, justement, les fonds américains, comme en France, ils vont apporter du cash, mais aussi de la croissance. Est-ce que tu bosses régulièrement avec les mêmes fonds quand tu fais des opérations, parce que tu connais ces fonds-là, tu sais ce qu'ils vont apporter aux entreprises? Est-ce que il y a souvent les mêmes fonds qui sur le small limit cap
avec l'expérience au fur et à mesure des années, on sait qui peut être, ouais, qui peut être le fond qui correspond le mieux aussi à la personne, à l'entrepreneur avec laquelle tu vas présenter. Mais ça, c'est valable dans le monde entier.
Bien sûr. Et bon, les avantages, inconvénients de faire entrer un fonds US au capital quand on est une boîte française. Est-ce que...
Les avantages, ils sont à l'ouverture du marché américain, le network qu'ils vont avoir. Il y a vraiment une relation, le network aux États-Unis, qui développe un peu en France, bien, mais le network aux États-Unis est capital. Ah, ils sont très forts en network, ils n'ont rien à dire. Rien, hein. Alors, enfin, honnêtement, je pense que ça, c'est un des plus gros points. Je pense que sur le marché européen, du coup, la reconnaissance de dire qu'on a un fonds américain sans capital. Ouais. Avec l'inconvénient aussi de la, dans des deals que j'ai pu voir, de l'incompréhension, de la vision. Voilà, on a un fonds américain, bon, on n'arrive pas à faire la valo qu'on veut, on n'arrive pas à faire le truc, il va passer à autre chose. Le fonds français, il passe moins rapidement à autre chose. Il va essayer d'aider, on va essayer de faire. Le fonds américain, il a une, bon, ok, ça n'a pas marché, next. C'est ça un peu le différent et l'inconvénient. Mais après, je pense que c'est plutôt culturel. Et après, ça peut ouvrir. T'as des fonds qui ont la plupart des investisseurs au capital qui vont avoir des grandes familles. Ça peut être des familles retail, ça peut être des familles dans l'automobile. Enfin, ça dépend dans quel domaine tu veux et au final, ça peut aider vachement.
Et la fiscalité des opérations de M&A aux États-Unis, c'est quoi ?
Avec la nouvelle fiscalité Macron, finalement, on n'est pas très loin, c'est du capital gain.
Ouais.
Il n'y a pas beaucoup. La différence, c'est la fiscalité du travail. La fiscalité du travail, ici, est beaucoup
plus... Les charges sociales.
Les charges sociales, etc. Mais sinon, sur la fiscalité, il n'y a pas de... La fiscalité, d'un point de vue États-Unis, après, il y a certains États qui ont différents règles, New York ou la Californie, mais par exemple, en Floride, où je suis, tu es sur du 24, allez, 26%, et tu vas être à 30, je crois, en France aujourd'hui, maintenant.
Ouais, exactement, avec le PFU, exactement, fat tax. Et pour clôturer ce très bel échange, parce qu'on arrive à la fin de cet échange passionnant, Ilan, déjà, quels seraient les conseils que tu donnerais à un entrepreneur, un Américain, un Français, par exemple, qui chercherait à faire une opération avec un Américain, voilà, pour résumer un peu tous les conseils que tu as pu donner? Si tu devais lister 2-3
autre que m'appeler.
Ouais, autre que, ouais, exactement. Moi, déjà, c'est ça résume. Non,
j'ai essayé d'écouter
donné,
ce que Christopher a dit.
Et t'as raison, bien sûr.
Il a dit, il faut placer dans le
temps. Exactement. Non, mais c'est au début, ça, il fallait.
Ouais, j'ai pas compris quand tu l'as expliqué. Un conseil à l'entrepreneur, c'est déjà se poser la question si c'est très important pour moi. Est-ce qu'il va pouvoir passer du temps avec eux? De prendre le temps de les connaître. De faire le déplacement, d'aller les voir. Les Américains, ils aiment beaucoup dire oui. De passer un week-end, d'aller voir un match de football américain, d'aller voir un match de baseball, de voir comment ils interagissent dans leur vie va donner beaucoup d'images et d'idées sur qui est la personne. C'est très, enfin, dans tout deal que tu fais, la personne est très importante. Deuxièmement, il y a le network qu'ils peuvent apporter. Est-ce que c'est un network réel? Est-ce que c'est un network papier? Est-ce que c'est un network familial, family office. Et enfin, troisièmement, est-ce que c'est intéressant de le faire rentrer maintenant ou de le faire rentrer dans une série B ou dans une opération 3 ou dans, j'en sais pas. C'est, voilà, c'est, pour moi, c'est les trois points avant de faire rentrer un fonds américain.
Parfait, merci beaucoup, Ilan. Est-ce qu'il y a des questions que je ne t'ai pas posées ou des éléments que tu aimerais rajouter qui te semblent importants?
Écoute, on a fait un grand tour, je pense, quand même.
Et bien sûr, et dans tous les cas, c'est surtout pour montrer aux auditeurs, justement, la seule boutique M&A Cross Border, donc France États-Unis. Est-ce que tu peux rappeler ce que tu fais, ton accompagnement, tes services, voilà, pour que les personnes qui nous écoutent puissent te contacter au bon moment et dès que c'est opportun?
Bah écoute, on est une boutique M&A classique avec une offre de services... que ça soit sur du sell side, donc la vente de boîtes, l'accompagnement à la cession. On peut faire tout ce qui est levée de fonds, que ça soit en gros en gros equity ou du venture.
Okay.
Et on accompagne aussi dans l'acquisition, évidemment, à l'étranger, que ce soit des fonds d'investissement ou des entrepreneurs qui veulent grossir.
Et bien donc, ouais, avec un accompagnement aussi patrimonial, parce que avec Family Office, est-ce que...
Bah écoute, ah ouais. on a développé avec le temps un family office à côté, mais après ça c'est ouais. une offre que j'ai fait surtout pour
tes clients.
Ok, très bien. Et voilà, écoute, je t'invite à venir à faire le prochain podcast. On peut le faire si tu vas à Miami.
Bah d'ici là, il faudrait que je travaille mon anglais. Donc c'est pour ça que je préfère.
Je t'ai pas dit en anglais, on le fera en français. Mais à Miami.
Exactement, parfait. Ah ça me plaît ça. Tu sais me parler, Yann. C'était vraiment passionnant. Est-ce que tu veux rajouter conclure avec le mot de la fin? Tu dis ce que tu veux. Là, c'est carte blanche.
Écoute, je vais te remercier déjà parce que c'était très agréable, un très bon moment. C'était le premier podcast que je faisais. J'avais pas d'a priori ni d'attente, et en tout cas, c'est un moment qui est assez agréable et que je referais volontiers.
Bah avec grand plaisir.
Merci encore et à bientôt.
Bah merci à toi surtout, Ilan. Et puis voilà, n'hésitez pas à contacter donc Ilan, donc Effectif Capital, de le suivre également sur les réseaux, sur LinkedIn. Ilan a un très bon réseau, une très très forte expérience en M&A et avec une culture maintenant américaine, enfin franco-américaine, je ne sais pas si on peut maintenant 100% américain ou plutôt franco-américain pour pas...
On garde le franco quand même.
Exactement, ouais. C'est stylé en plus, franco-américain, donc n'hésitez pas à le contacter. Et puis pour tout conseil pour des personnes qui chercheraient à faire une opération avec les États-Unis. Et tu interviens sur tous les secteurs, Ilan, aussi
tous les secteurs.
Okay,
tous les secteurs.
Donc voilà, merci beaucoup,
Ilan. Merci beaucoup à toi.
C'est passionnant et à très vite surtout.
À très vite, merci.